S02E01, c'est le premier épisode de la deuxième saison. Ah, retour tant attendu pour Comedy News Weekly. Le plaisir n'empêche de pouvoir recommencer à parler de farce et je pense en faire plaisir à notre entourage aussi, Anthony, qu'on canalise un tout petit peu cette passion-là entre geeks, histoire de ne pas saouler les gens normaux.
C'est entre nous, oui.
Exactement. Merci aussi pour avoir énormément téléchargé l'épisode avec Navo. C'était donc le 15e en direct du Comedy Club. C'était notre meilleur score. Et puis, maintenant, il y a des gens qui ont commencé à nous suivre aussi sur le podcast, sur le Twitter, pardon, @CNWPodcast. Faites-vous plaisir. Et donc, il y a genre de clic de médecins qui s'échangent des infos et des blagues.
Qui sont super influents, apparemment.
Ben oui, c'est ça. Et je comprends qu'un médecin soit influent dans la vraie vie et de voir à quel point ils sont influents dans le monde de la farce, ça remet en doute tous mes choix d'études. Et donc, merci beaucoup. Comme ça, voilà, si un jour on a envie de vous faire rire ou d'être soigné, j'imagine qu'on est bien connecté. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi. On va revenir cette année. On va essayer de
faudrait qu'on passe, qu'ils diffusent ça dans leur salle d'attente, tu vois.
Mais ça n'empêche, c'est une bonne idée, je trouve. C'est comme dans le temps des fêtes, comme on dit au Québec, j'ai trouvé la meilleure idée de toute l'histoire de l'univers, man. Une idée, tu sais quoi, je vous la donne. Vous allez pouvoir devenir millionnaire avec ça. Je voulais donner l'exemple d'une mauvaise idée. En fait, on avait une discussion et je disais, mon point c'était chaque chose à sa place. Tu sais, comme par exemple, la masturbation c'est chouette, dans le parc, moins. Tu vois, c'est genre l'allaitement, oui, pendant que je mange, c'est pas nécessaire. Tu vois, c'est des trucs comme ça, par exemple. Et je voulais dire, c'est comme avoir une section sex toys chez Prémaman, qui est donc un magasin pour maternité. Et au bout d'une demi-seconde, je fais, wait a minute. Des sextoys pour femmes enceintes, c'est parfait. Déjà, il faut qu'ils soient longs. Parce que question d'accessibilité. Il faut qu'il y ait des courbes. Question d'accessibilité. Et probablement, s'il y a un moment où tu as le plus envie / besoin d'un sextoy, ça doit être à ce moment-là ou juste après, non?
Est-ce que ce serait un sextoy goût fraise?
Je pense qu'une fille qui s'achète un sextoy, c'est pas pour le manger.
Non, mais bon,
tu pour vois, ça, il y a déjà un sextoy, ils appellent ça de la glace.
Ça c'est pas moi un petit.
Ça hume bon.
C'est comme les capotes qui ont des goûts de fruits. Enfin, on les mange pas non plus, mais bon, tu vois ce que je veux dire.
Toi, non, mais...
Qu'est-ce que t'en sais?
Mais en fait, bref, je me disais, sex toys pour... Je trouve que c'est la meilleure idée de la vie. J'ai limite envie d'être enceinte pour le tester.
Moi, j'imagine surtout déjà les gens qui reprennent le podcast et qui ont une grille de bingo. Alors, ils attendent name dropping. Ils ont déjà masturbation.
Ça, c'est fait.
Ils ont les bruits du chien là, qui est en train de me sauter dessus.
Ah oui. Mais en fait, j'ai une femelle qui a été opérée à un très très bas âge. Et Anthony a chez lui et un peu sur son pantalon un mâle. Et de toute évidence, mon chien.
Il y a une connexion qui s'est faite.
Il doit pas comprendre parce qu'il n'y a pas les hormones du sexe, toi. Mais t'as l'impression qu'il se dit j'ai envie de lécher ce pantalon-là, je comprends pas pourquoi. Et il le fait avec passion et interrogation. Tu le vois, tu sais, comme quand, mettons, tu cliques sur un truc de porn où t'es pas fier d'avoir cliqué dessus, mais tu continues quand même ce que t'es en train de faire. Toi,
du coup, je t'écoute et je repousse le chien tout doucement.
Discretos. Tu sais, mon chien, c'est une femelle qui est pas consciente de la vie. Quand j'étais au téléphone et qu'elle était tout petite, elle essayait de se, je dirais, mal masturber sur ma jambe. Et c'était très perturbant. Elle violait des coussins.
Tu me rassures vraiment, là.
Mais c'est vrai en plus, et on m'a expliqué que c'était un comportement de domination. Bienvenue voilà. Dans le podcast sexuello-animalier.
On parle pas de comédie aujourd'hui.
On est d'accord pour dire que sexuello, c'est pas un mot qui existe, sexo-animalier. Donc Anthony, on était là, pas là, pendant un mois. Et
ça se sent.
Et ça se sent. Et en plus, on s'est dit, ah non mais là, on revient, là, on est devenus des professionnels entre-temps. Hein. On va finir de faire une heure un peu n'importe comment, on va faire un petit 45 minutes bien tight.
Ça tombe ce qu'on vient de dire, on l'entendra pas parce que ça enregistre.
Oui, non mais j'ai pris des cours. J'ai pris des cours entre-temps. Maintenant, j'ai appuyé sur play.
Yes.
Et record. Et t'as passé des bons temps des fêtes?
Ouais.
J'ai vu Anchorman 2, man.
Ouais.
Tout seul dans une salle. Ouais. J'arrive comme un fou en disant Anchorman 2! Et j'étais déjà prêt à mettre des fausses moustaches, faire des high-fives à tout le monde dans la file. J'étais au Québec.
En descendant les escaliers.
Exactement. Et j'arrive dans la salle et je suis tout seul. Mais vraiment tout seul, genre tout seul, quoi. Et à un moment donné, je rigole, puis à un moment donné, j'entends rigoler, puis c'est pas moi. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, normalement, quand t'es tout seul, c'est... Et je me retourne, et je suis sûr que c'est vrai, le projectionniste était descendu dans la salle en disant « Tant qu'être tout seul, je vais venir voir le film en direct. Ouais. »
Putain.
Donc voilà. Et le petit bruit que vous venez d'entendre, c'est donc mon chien qui est passé dans les fils de micro. Et voilà.
Je pense que c'est le signal qu'il faut qu'on commence.
Oui, c'est parti. Donc, dis-nous ce que tu as observé, parce qu'on s'était dit qu'on allait faire un truc plus light pour la rentrée, mais finalement, il y a passé, c'est passé énormément de choses.
Ouais, non, en fait, c'est une nouvelle année, c'est une tonne de news. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est que des bonnes nouvelles.
Ouais, et d'ailleurs, je veux juste te féliciter pour un truc. Si vous suivez pas le podcast encore, vous pouvez l'écouter. Je crois que c'est le deuxième. C'était les spéciales séries de la rentrée. T'en avais regardé quelques-unes et tu nous avais parlé de Brooklyn Nine-Nine.
Ah ouais.
Avec Andy Samberg. Et on se disait que, ah, il va se planter. C'est un gars du SNL. On rigole un peu. Puis non, je vous jure que c'est bien. Et pas plus tard que ce week-end, on l'a vu remporter à la fois le meilleur rôle dans une comédie pour la télé et après ça, comédie de l'année en télé. Donc deux prix. Et j'ai vu des articles sur des sites français où il disait tout ce que vous devez savoir sur Brooklyn Nine-Nine que vous venez probablement de découvrir grâce aux Golden Globes. Donc, félicitations. Bon œil pour la série dès septembre. Tu nous disais qu'il fallait suivre ça.
Ouais. Mais il n'y a pas que lui. Il y a Amy Poehler aussi qui a reçu un prix, son premier aux Golden Globes pour Parks and Rec.
Ouais.
Ça, c'est plutôt cool. Et voilà, et elles ont fait le meilleur score depuis 10 ans.
Des Golden Globes?
Niveau audience, ouais, 20,9 millions.
Et très lucide aussi en début en disant, on l'a animé l'année passée, c'était chouette. Et comme d'habitude, Hollywood, quand un truc marche vaguement, eh bien, on le répète jusqu'à ce que tout le monde en ait plein le cul de voir les faces.
Eh bien, écoute, c'est peut-être ça parce qu'elles ont signé déjà pour l'année prochaine, donc...
Bien joué, mais elles sont douées.
On parle de Tina Fey et Amy Poehler.
Ouais, qui ont présenté. Il existe sur Internet plein de compilations de leurs meilleurs moments.
Ouais, on peut poster une vidéo.
Et je comprends pas. Je sais pas s'ils le font. Quand c'était Ricky Gervais, il y en a qui l'avaient fait. Moi, si j'étais un site d'info francophone qui s'intéresse le moindrement à la comédie, je dépêcherais un journaliste le soir pour le regarder en live, histoire que le lendemain matin, t'aies les discours avec déjà les sous-titres. Parce que tu sais que tous les sites d'actu vont te reprendre. Et je comprends toujours pas pourquoi les gens le font pas. Nous, on le fait pas parce qu'on n'est pas payé et on s'en fout, mais mettons un site qui veut faire du clic un peu, ouais, ça peut être un super truc parce que tout le monde, j'ai l'impression, sur Facebook, se l'échange déjà et t'entends toujours « Ah, je comprends pas ».
Mais tu ne fais que donner des idées à tout le monde aujourd'hui.
Je donne.
Mais tu ne reçois pas.
Sous-titrer vos sextoys si on combine les deux idées.
Qu'on peut continuer avec Andy Samberg, justement. Il était dans WTF, le podcast de Mark Maron.
Oui.
Ça fait longtemps que j'écoutais plus. C'est quand même assez insupportable.
Mark Maron, le problème, pour ceux qui ne le connaissent pas...
C'est devenu une parodie de lui-même.
C'est ça, la plupart des gens... Tu dois trouver ta personnalité, tu la définis, tu es très content de la définir. Ceux qui t'aimaient bien au début, tu commences à leur taper sur les nerfs et tu continues parce que ça marche de plus en plus, tu deviens une caricature de toi-même. Et son premier 10 minutes du podcast, avancez-le. C'est lui, en fait, il est en thérapie depuis, je pense, 246 ans, un truc comme ça.
Qu'il est né.
Et je crois qu'il n'y a rien qui passionne plus Mark Maron que les émotions de Mark Maron. Qu'elles soient bonnes ou positives ou négatives, qu'il ait bien ou mal paru dans une anecdote, il adore le raconter pour débriefer pendant 8 minutes sur son émotion du moment. Et donc, ces minutes-là, on s'en fout complètement. Les interviews, en général, deviennent intéressantes parce que face à lui, t'es pas très mal à l'aise de raconter ce qui t'est arrivé parce que tu dis à côté de ce qu'il raconte, pourquoi
pas. Ouais, c'est rien, quoi.
Le seul problème, c'est quand il a envie de te faire dire quelque chose. Et c'est là que ça devient supportable. S'il a envie de dire, par exemple, que « Ah, c'est pas facile pour un jeune qui sort du SNL. » Si c'est ça qu'il veut lui faire dire, Samberg a beau dire 6 fois autre chose, il va revenir avec la même question parce qu'il n'a pas obtenu la réponse qu'il veut. Au-delà de ce tic-là, et quand tu sais que lui, on s'en fout un peu... Je trouve que ça va encore, mais les 10 premières minutes, c'est assez pour te faire décrocher du podcast.
Ici, il a enchaîné et Samberg et après Will Forte, donc j'étais un peu content parce que c'était un peu SNL.
Ouais.
Mais il n'a pas arrêté de se plaindre. Il a une série sur une chaîne qui s'appelle IFC, qui s'appelle Maron,
ouais,
basée sur sa vie et sur ses stand-up. Et au début, il se plaint que le tournage de la saison 2, enfin, il y a quelques complications. Tu dis, oh, t'as ta série, les gens t'ont enfin reconnu parce qu'il a eu une période un peu, une espèce de mini... traverser du désert.
Pendant des années, à la fin, il disait qu'il était même plus capable d'être booké dans des comedy clubs. En gros, quand t'es humoriste aux États-Unis, t'as les théâtres quand t'es une star, les comedy clubs pour headliner quand t'es une semi-star, et puis après ça, si t'es middle act, donc dans le milieu. Hein? Et si t'es opener, en général, t'es quelqu'un de local. Et lui, il disait qu'il avait du mal vraiment à être booké alors qu'il avait fait la tournée de partout dans le monde, il avait du mal à être booké dans les comedy clubs, fait le podcast, réussit à headliner maintenant sans trop de problèmes.
Et là, il a pas vraiment de raison de se plaindre. Enfin, ça devient lourd et puis. C'est mélangé à de la pub, évidemment, parce qu'il finance son podcast comme ça, mais Oui. Il se plaint de son tournage et puis il te vend des timbres. Enfin, et tu dis, passe à l'interview, quoi.
Oui, ceci étant dit, si vous avez envie de sponsoriser ce podcast, il faut pas non plus tout prendre ce qu'Anthony dit au pied de la lettre.
Je n'ai rien contre le sponsoring. Je dis juste mélanger aux plaintes de Mark Maron, ça devient...
Oui, non, c'est ça. Nous, on se plaint pas. Donc, si, mettons, si on a envie de dire que les nouvelles Jordan de Nike sont bien, c'est qu'elles sont bien, tu vois. C'est, à la limite, c'est pas obligé du sponsoring si on le pense. Et puis qu'en échange, t'as un truc, tu vois. Oh, mais un magazine, un bête magazine, tu vois. Il y a un magazine que t'as. Genre le GQ France ou les Inrocks, c'est bien?
Moi, je prends, moi.
S'ils ont envie d'envoyer un abonnement, ils n'ont pas de... Oui, d'ailleurs, le GQ...
Par contre, la Poste, on n'a pas vraiment envie de vendre des timbres, donc...
Ceci étant dit, GQ était un des rares magazines à avoir fait un bon dossier sur les late shows.
Non, mais il y en a fait, je pense, ouais.
Avec Stromae en couverture. Je ne sais pas si tu vois qui c'est un petit chanteur.
Non, je ne m'intéresse pas à tout ce qui est culturel. autre podcast, enfin c'est pas vraiment un podcast, je sais pas comment appeler ça, mais il y a le retour de Jerry Seinfeld, Comedians in Cars Getting Coffee.
C'est une web-série.
Web-série?
C'est une web-série tout simplement. Je crois qu'ils l'ont un peu vendu en télé, mais c'est d'abord sur le site Comedians in Cars Getting Coffee. Et c'est vrai qu'ils en ont fait des... Déjà en décembre, on en a loupé un qui était très bon.
Lequel?
Louis C.K.
C'était déjà en décembre?
C'était en décembre, fin décembre, je crois. Et là, ils viennent de recommencer avec Patton Oswalt.
Ouais, ouais, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. En gros, on en a déjà parlé, je pense, mais le concept, c'est tout con. C'est Jerry Seinfeld qui appelle un pote, qui vient le chercher dans une bagnole qui est différente à chaque fois, parce qu'il est fan de voitures.
Ouais.
Et ils discutent d'humour. Il y a déjà eu Chris Rock, il y a même déjà eu Gad Elmaleh.
Ouais. Et son but, c'est vraiment, encore une fois, c'est le mood. C'est vraiment ça. C'est juste l'ambiance qu'il veut créer parce qu'on s'en fout un peu. Et même les discussions sont pas super importantes. Je veux dire, c'est pas genre « Wow !» C'est juste...
Là, t'apprends rien.
C'est ça, un petit œil sur qu'est-ce que ça peut être, deux comiques qui discutent ensemble quand il n'y a pas de pression. Quoi. Et moi, j'adore ce mood-là, forcément. Et tu veux parler de l'épisode de Louis C.K.?
Non, parce que je l'ai pas vu.
C'est la première fois qu'il faisait ça, en tout cas à ma connaissance, dans la série. Louis C.K. raconte une longue anecdote, ben voilà, sur une expérience qu'il a eue en bateau avec ses filles. Et pour une raison que j'ignore, ils ont décidé de faire une animation. Donc, elle est dessinée. Et cette portion-là de l'anecdote, elle est, vu qu'ils peuvent pas vraiment illustrer le fait qu'ils soient en bateau, tu vois, il y a un dessinateur et c'est un petit dessin animé qui dure 2-3 minutes.
Mais l'anecdote, il l'avait pas déjà raconté chez Letterman ou chez Leno?
C'est le truc où il reste coincé en bateau.
Ouais, il l'a raconté.
Ah, il l'a
déjà fait en Late Night.
Ah, ok, je l'avais pas entendu encore.
Ouais, parce qu'à l'époque, il avait tweeté où je pense que quelqu'un avait pris une photo de lui qui attendait comme ça avec comment on appelle ça, un truc de sauvetage, un gilet de sauvetage.
On appelle ça un gilet.
Un gilet de sauvetage, j'ai dit quoi?
T'as dit, comment on appelle ça, là, le truc, là, on met sur le... Comment je t'appelle, déjà?
Mais j'avais vu les photos et oui, il en avait déjà parlé, en fait.
Ouais. Voilà. Je viens d'imiter... quelqu'un qui aurait du mal à s'exprimer. Et ça vient de me faire penser, j'ai joué pour une ASBL, c'est une mini parenthèse, mais je pense que c'est une plus grosse gêne à vie.
Par rapport au trophée que t'as là.
Ah oui, oui, oui. J'ai joué pour une ASBL super chouette et qui s'appelle Jardinage. Le but, c'est de prendre des gens qui sont atteints de déficience mentale, de certains troubles mentaux, et d'essayer de les sortir de l'isolement. Donc là, on essaie de créer des potagers ou des trucs comme ça, et puis les mélanges, voir des personnes âgées, par exemple, qui le font. Et donc, essayer de les sortir de l'isolement, c'est vraiment très chouette. Et moi, ils m'avaient contacté, donc j'ai décidé de jouer pour eux un samedi après-midi dans une salle communale. C'était assez agréable. Mais dans mon spectacle, il y a deux fois où je dis « Ah, donc il y a tout le village qui est en train d'encourager des petits canards en plastique. » Donc, on avait vraiment l'air d'une bande de Mongols, quoi. Et au moment où je dis ça, je fais « Ah, c'est pas top. » Je continue le spectacle et je le redis une deuxième fois le mot « mongol » pour un truc. Et tu dis « Dan, c'est quoi ton problème, quoi? » Et les gens de la salle étaient super gentils et ça a plus ou moins bien marché. Ils ont réussi à récolter des sous, donc ils ne disent rien. Mais t'as quelqu'un que je connaissais via qui dit « En tout cas, moi, si j'étais vous, mongol ici, ça fait quand même référence à la maladie mentale et j'éviterais l'air de dire « Voyons, trop du cul, tu vois bien ce que t'es en train de faire? » Et je fais « Elle a tellement raison, j'ai tellement peu d'arguments que
tout ça sort, ça. Enfin. »
Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un craquage. Moi, mongol, ça veut juste dire... c'est comme chochotte, il y en a qui trouvent que c'est une insulte homosexuelle, puis d'autres qui disent « Non, ça n'a rien à voir, ça a juste avec le fait d'être faible. » Tu sais, des fois, dans ton langage, t'es tellement habitué d'entendre un truc, tu l'as dénaturé, mais comment tu peux défendre que Mongol ne fasse pas référence à... Impossible, tu vois, si eux se plaignent...
Non, ouais, non, là, non.
J'ai rien à part... Je suis un imbécile. Combien ça me coûte? Il n'y a pas de... Donc voilà, gros bide, fin de la parenthèse, parce que, voilà, on vient de parler de ça. Et donc, Comedians in Cars Getting Coffee, c'est gratuit sur le site Comedians in Cars Getting Coffee.
Ouais, d'ailleurs, ils étaient dispo sur YouTube et ils les ont enlevés. Je sais pas pourquoi.
En général, c'est une question d'argent, je dirais.
Je pense, parce qu'il est sponsorisé par une marque de bagnole aussi.
Oui, c'est drôle, parce qu'il est sponsorisé par Acura.
Ouais.
Alors que tu vois pas toutes sortes de bagnoles, quoi.
Par contre, petit enchaînement à 2 francs, il y a une série qui s'appelle Eagle Heart, j'en avais déjà parlé ici, qui est disponible sur Adult Swim, donc la chaîne adulte, enfin adulte, adolescent, on va dire, de ouais. Cartoon Network, qui est diffusée tard le soir. Et en gros, ils ont décidé de mettre leur saison 3 en entier sur YouTube. Donc, tous les épisodes sont dispo gratos sur YouTube. Ça, c'est plutôt cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu la saison 1 ou 2 pour suivre.
Et tu peux nous raconter juste un peu à quoi ça ressemble? Moi, j'ai pas checké un épisode.
En gros, c'est... je reviens jamais sur son nom. C'est Chris Elliott, voilà. Qui jouait dans... Marie à tout prix jouait le fou qui se grattait, qui avait tout des boutons comme ça, qui jouait un espèce de shérif complètement stupide.
Chris Elliott, voilà. C'est lui qui jouait le cadreur, le caméraman dans Un jour sans fin, le jour de la marmotte.
Aussi, avec ouais, mais il est partout, il est toujours, c'est le genre de mec que tu dis comment il s'appelle celui-là, enfin,
ouais.
Tu le vois partout.
Le deuxième rôle par excellence, quoi.
Et en gros, c'est un peu sa série, qui ça dure 10 minutes un épisode. Et ici, ce qu'ils ont fait, donc, c'est que toute la saison, c'est une histoire, donc. Dispo gratos, dispo même en Europe, donc ça c'est plutôt cool.
Que ça soit dispo gratos en Europe, c'est pas rare, dispo gratos légalement, là tout de suite.
Oui, mais des fois, par exemple, tu vois, HBO ouais. est en train de tester avec Girls ici, ils ont mis les deux premiers épisodes de la saison 3 sur YouTube, mais tu sais pas les voir.
Ah, c'est chiant ça.
Ça, c'est un peu casse-couille. Quoi d'autre? Je sais pas, moi propose.
Ben écoute, continue. Hey, je disais que j'allais voir Anchorman, on va peut-être faire un mini débrief quand même sur le film.
Ah ouais, juste vas-y.
Dire que c'est. Si vous avez aimé le premier, c'est sûr que vous allez aimer le deuxième. Ça, c'est. Y a pas de doute. Si le premier vous a semblé bizarre, le deuxième va vous sembler un peu plus bizarre parce que tu vas un peu plus loin dans les personnages. La clé de scénario qu'ils ont trouvé pour justifier un deuxième film est géniale. Et t'as des parallèles par rapport à l'histoire réelle du journalisme. Et donc, moi, je trouve que c'est vachement bien trouvé. Il y a peut-être un tout petit peu moins de légèreté que dans le premier où l'histoire y allait, et est beaucoup plus fournie au niveau des gags, mais si t'es fan des personnages, donc Paul Rudd, David Koechner, Steve Carell et Will Ferrell, ben c'est blague, genre je vais chercher sur Amazon le scénario un jour et je vais l'acheter pour le plaisir de regarder le génie dans l'écriture. Et t'as de tout, des trucs qui font aucun sens, des gags. Et j'ai pas envie de tout spoiler parce que
moi j'ai envie de le voir.
Mais je vais juste en dire un et c'est le seul que je vais dire. Ça commence, ils réunissent toute la clique, donc c'est pas rien. Et puis ils cherchent Brick Tamlin, donc le personnage par Steve Carell, celui qui jouait dans 40 ans toujours puceau. Et les deux autres disent, tu sais pas ce qui est arrivé, non, il est parti en mer et puis on l'a jamais retrouvé, quoi. Et donc ils ont tous un peu le cœur brisé. Ils vont à ses funérailles et t'as une grosse photo de Brick Tamlin et t'as le curé qui commence à faire son eulogie, bla bla bla. Et quand le curé, genre t'as un plan large. T'as le curé qui sort vers la gauche et vers la droite arrive Steve Carell puis fait I'm so sad! Et ils mettent au moins 3 minutes à lui convaincre qu'il n'est pas mort. Et donc voilà. Et ça, c'est plus ou moins le début du film et tu dis OK.
Ça commence bien.
Et voilà, c'est tout ça est respecté. Donc je vous recommande chaudement d'aller le voir. Et si vous n'avez pas encore aimé le premier, re-regardez le premier encore. C'est pas eux qui ont tort, c'est vous. Le montant, le dire tout de suite.
Mais ce qui est cool, c'est que la promo est enfin finie.
Oui.
Ils ont fait un dernier truc où ils étaient tous les quatre chez Jon Stewart.
Ouais, j'ai vu.
C'était super drôle. Ils ont fini par se battre, ouais, entre guillemets. Ouais, je préfère voir le film maintenant que toutes ces promos qu'ils ont fait.
Judd Apatow, qui est dans l'équipe de production, a quand même répondu, a mis un tweet, la journée de la sortie, a mis un tweet sur Internet pour dire à ceux qui se plaignent que.
Un tweet, tu vas pas le mettre dans la rue de toute façon.
Il a mis un commentaire sur sa maison, à la craie. En fait, il a pris des humoristes connus et il les a agencés de façon à former des lettres et se passait en hélicoptère au-dessus. Tu pouvais voir. Donc, il a tweeté. Pour ceux qui se plaignent qu'il y a trop de promos pour Anchorman, juste une chose à vous dire. Essayez-vous d'aller vous battre contre The Hobbits en promo, genre dumb face, fat fuck ou un truc comme ça.
C'est clair, mais bon.
Et qui n'a pas très bien marché, paraîtrait The Hobbit d'ailleurs, au passage.
Je n'en sais strictement rien.
Il paraîtrait que c'est le film de Bit qui a le moins marché.
J'ai rien entendu. Alors, cinéma. T'avais pas pris des bonnes résolutions, toi?
C'est d'une tristesse.
Sinon, j'en ai une pour toi.
Ça commence par ferme ta gueule, puis ça finit par un point d'exclamation.
On avait parlé d'un biopic sur Richard Pryor.
Oui.
Qui était mort, né, remort, né. Enfin,
pas Richard Pryor, hein, le biopic.
Non, le biopic. Ben, c'est de nouveau d'actualité. Et là, il y a plusieurs personnes qui sont évidemment sur le coup. Il y aurait Eddie Murphy, Marlon Wayans et Michael B. Jordan qui voudraient interpréter le rôle.
Et quel est le point commun entre ces trois personnes-là?
Bon, ils sont noirs déjà de 1.
Okay.
Y en a deux qui sont drôles. Michael B. Jordan, il est connu, il était dans Chronicle, le film avec les jeunes qui avaient des super-héros.
Ok, ouais.
Et du récemment, coup, on l'a vu dans Fruitvale Station, une histoire vraie.
Et probablement qu'il s'appelle juste Michael Jordan, mais qu'il a dit « Bon, je vais rajouter un B parce que sinon on va me casser les couilles. » C'est toi qui danse, pas moi.
Et donc voilà, et ce serait réalisé par Lee Daniels qui a réalisé The Butler et Precious.
Ok.
Ça reste tout très noir.
Ouais, et c'est deux films historiques en plus, non?
Non, Precious, non.
Precious, c'est une... C'est pas, c'est sur une histoire vraie, Precious.
Sur un livre.
Mais c'est une histoire vraie.
Moi, j'en sais rien, ça.
Ah, si. Je vais checker.
Je ne sais pas. Mais en lisant la news, ils expliquaient qu'il y avait donc eu déjà des essais pour adapter le film, enfin en tout cas la vie de Richard Pryor. Il y avait Chris Rock qui était attaché à un moment donné au... Ça aurait tué ça.
À fond.
Et il avait bossé avec Marlon Wayans. Enfin bon, soit, ça va à mon avis sûrement se faire. Là, je pense qu'il y a...
Il y a assez, genre, il y a assez de push derrière pour que ça puisse fonctionner.
Ouais, et vu que le film de Bellucci, on en avait parlé, a décollé, donc je pense qu'on va se payer tout un tas de biopics d'humoristes qui ne sortiront jamais ici.
Ouais, c'est sûr qu'il va falloir télécharger légalement, bien sûr.
Autre chose qui n'était pas sortie à l'époque, c'est un film qui s'appelle Tomorrow Night, qui devait sortir en 98, qui avait fait Sundance, et c'est un film réalisé par Louis C.K.
Ok.
Un film en noir et blanc, c'est son premier long. Et en gros, il était chez Leno la semaine passée ou il y a deux semaines, et il a dit qu'il allait le sortir à $5 sur son site. C'est pas encore dispo, je connais pas le pitch, je sais qu'il y a juste Robert Schmeichel dedans, Steve Carell, J.B. Smoove, il y a Conan, il y a Amy Poehler, enfin il y a plein de gens. Et c'est son premier long qu'il va distribuer lui-même.
Ok.
Et c'est assez cool, et je sais pas si tu l'as vu chez Jay Leno.
Non, j'ai décroché un peu moi, pendant quelques
C'était semaines. C'était assez cool, il a fait son petit monologue comme il fait d'habitude, enfin c'est... Je crois qu'il prépare ses vannes, il les écrit à l'avance.
Oh, c'est sûr. C'est sûr qu'il prépare des petits bits, des anecdotes. Et de toute façon, ils le font tous. Mais lui, tu vois que c'est... Et Seinfeld en parlait justement avec le Patton Oswalt. Il disait une histoire parfaite pour un panel, donc quand tu es assis avec un présentateur de Late Night, c'est l'histoire qui est pas assez bonne pour un show, mais trop bonne pour jeter à la poubelle. Et c'est clair que c'est des trucs un peu testés sur scène ou un truc qu'il trouve marrant et qu'il décide de réutiliser de cette manière-là.
Sauf que là, après avoir fait ça, il a remercié Jay Leno qui part d'ici quinzaine de jours. Donc maintenant,
C'est le 1er février, non, le début de Myers?
Non. Le Fallon, c'est le 17 et Myers, c'est le 24 février.
Oui, c'est ça. C'est en revenant des JO Sochi. Ouais.
Et en gros, il l'a remercié. C'était assez... émouvant, on va dire, parce que apparemment Leno a été le premier à lui faire confiance en télé, en tout cas en tant que stand-upper, en tant qu'humoriste, parce qu'il avait fait de la télé évidemment avant. Et il y a aussi la femme de Judd Apatow qui s'appelle Leslie Mann,
ouais,
qui elle aussi est venue et qui elle a carrément pleuré.
Ah, mais ça.
Et apparemment, elle dit en blaguant, elle dit ouais, je suis sous, mais je pense qu'à mon avis, ça m'étonne pas si elle était sous parce que c'était un peu trop bizarre.
Ouais.
voilà.
Ouais, pleurer le départ de Gilles. Tu sais, il a été super influent et tout, mais de là à pleurer son départ.
Il reviendra de toute façon dans deux mois, c'est une histoire de quelques mois.
Mais dans les dernières rumeurs que j'ai entendues, c'est qu'il allait peut-être avoir un deal avec CNN pour faire un long monologue tous les soirs.
Mais Jeff Zucker, qui était l'ancien patron de NBC, celui qui a foiré NBC,
ouais,
en gros, et qui l'a laissé comme ouais, une grosse merde, qui est maintenant le patron de CNN depuis un an, plus ou moins.
Et ça marche bien pour CNN depuis un an, donc le gars a un bon parcours, je trouve.
C'est ça, quoi. Mais il a nié l'arrivée de Jay Leno. Donc,
Il a dit, et je cite, « Ce serait une bonne idée. Ceux qui me connaissent savent donc ce qui va se passer. » Et ça, c'est un truc dans la vraie vie, tu vois ça aussi. Des gens qui... On dirait que les gens lisent juste une moitié de CV. Mettons, tu dis, ah, j'ai travaillé pour, je sais pas, Energy, TF1, Canal+, ici, RTB, RTL. je sais pas, moi, CNN fait « Oh, viens, on va t'engager. » Oui, mais à côté de ça, il y a le bilan, genre « Échec, émission annulée, échec, suicide collectif, suicide collectif, non, suicide lui, collectif. »
Il a vraiment transformé la chaîne, quoi. Ce qui reste d'NBC maintenant, c'est lui, quoi. Il reste que des cendres, comme ça, et après un grand feu.
À fond. Et d'ailleurs, j'ai eu reçu à Noël un livre écrit par Warren Littlefield, qui est un
je connais pas.
Un baron de la comédie à NBC. C'était lui le chef à l'époque où il y avait un segment qu'il appelait le Must See TV. C'était les jeudis soirs à l'époque.
Jeudi où Friends.
C'est ça. Seinfeld, Friends, ER, et j'ai oublié, il y avait deux, trois huge trucs aussi. Et c'est l'histoire de la montée. Parce que avant c'était aussi un peu la cata. C'était à la fin des anciens shows. Je me souviens plus comment il s'appelait, mais genre Cheers. C'était peut-être pas Cheers cette chaîne-là, mais un peu de trucs de cette époque-là. Vers la Renaissance et donc le gros gros succès. Et après, il raconte à la fin, et là j'y suis pas, comment est-ce qu'ils se sont replantés après derrière. Et donc j'imagine que le nom de Jeff Zucker doit apparaître.
Je vois ça parce que, et ici il y a quelques exemples assez frappants, laisse-moi les retrouver.
Tu pourrais mettre le lien peut-être sur le Tumblr si tu veux bien, du livre. C'est de Warren Littlefield, parce que si tu t'intéresses à la télé et à la comédie, j'ai commencé à le lire, c'est hyper intéressant.
Donc j'avais déjà parlé que je trouvais pas ça, enfin à mon humble avis évidemment, qu'ils laissent partir leur star du SNL.
Ouais.
Ils ont su garder, je parle récemment, Tina Fey qui avait fait 30 Rock, qui a encore quelques deals avec la chaîne. Et encore, elle a des deals avec d'autres chaînes aussi, donc on avait parlé d'une série normalement chez Fox qu'elle produirait, soit.
Mais même récemment, Andy Samberg.
Bah oui, c'est ça, pour l'instant, il reste juste que Amy Poehler, ouais. En tout cas à l'antenne. Andy Samberg s'est barré sur la Fox.
Et ça se passe plutôt bien.
Et ça se passe, enfin, toi, après une demi-saison, ils ont un Golden Globe. Et ici, Fox vient de signer les Lonely Island. Donc, qui étaient les faiseurs de hit au SNL, quoi.
Dick in a Box, Mother Lover, etc., etc.
Et en fait, ils ont un deal de création. Ils peuvent créer ce qu'ils veulent, ou en tout cas produire ou faire venir des gens qu'ils aimeraient bien produire, etc., ou ils écrivent. Enfin, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ce sera diffusé d'abord sur Hulu et Roku, qui sont deux plateformes VOD là-bas. Et il y a une option de FX et de leur chaîne Fox FX FXX,
ouais,
pour adapter ces formats en série, full série télé.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Mais pourquoi? Enfin, c'est à NBC de faire ça.
Ouais, mais...
Et c'est comme aussi, on avait parlé de John Mulaney, qui est un auteur, qui était un scénariste au SNL.
Qui a l'air d'avoir 12 ans, dont le stand-up est très 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 bon.
Qui s'appelle New in Town. Lui aussi s'est barré parce qu'il avait, il avait fini son job au SNL. Et il avait une série qui s'appelle Mulaney, où en fait c'est un peu sa vie. Forcément, il raconte en fait que... Enfin, dans la série, il est auteur pour un humoriste, okay, un truc comme ça, qui sera joué par Martin Short, un ancien du SNL aussi. Et c'est Fox qui a repris le pilote.
Mais...
Ouais. Et là, c'est en tournage, donc c'est la série est choisie, quoi.
C'est ça. Et dans le livre dont je te parle, de Warren Littlefield, donc le big boss, un des big boss de NBC, il disait qu'il a vite, vite compris, quand ils ont essayé de sortir NBC de la dèche, qu'il y avait une seule façon de s'en sortir. Choisir tes gens, choisir les gens les plus talentueux possibles et leur faire confiance. Et voilà.
Mais là, c'est dingue. Dans le cas de Mulaney, le pilote a été proposé par John Mulaney à NBC. C'est NBC qui a dit non.
Ah oui, donc
Fox
des gens...
s'est dit, ah, attends, ils sont un peu cons là-bas, on va les reprendre, on va les repêcher.
Mais tant qu'à miser sur des gens, mise sur ceux que tu connais déjà, peut-être. Ou peut-être ils ont des... au contraire, c'est qu'ils les connaissent, ils font, non, ça va pas marcher.
Je sais pas, mais c'est trop bizarre.
Mais tant mieux pour ces gars-là, n'empêche, ils ont du talent et qui se font reconnaître à une place ou à une autre, et la journée, ils reviendront à NBC va les débaucher avec un contrat à plusieurs, c'est... enfin bref.
Je vais continuer de parler de Fox et de ses chaînes FX et FXX. Parce qu'ils ont quelques projets en cours là qui sont assez intéressants, notamment un par Louis C.K.
Ok.
Ils ont commandé FX a commandé un pilote à Louis C.K. En gros, j'avais déjà parlé qu'il avait un deal, sa société avait un deal avec FX et il peut proposer ce qu'il veut.
Ok.
Et là, du coup, il est en train d'écrire une série avec Zach Galifianakis.
Sérieux?
Lui produira et Galifianakis jouera dedans. Et tu te dis, bon, ben voilà quoi.
T'es sérieux?
Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est le genre de truc, tu sais que ça va arriver à l'antenne. Enfin, il n'y a pas de...
Honnêtement, man, j'ai jamais été aussi heureux de faire ça. Donc, Louis C.K. va écrire un truc
Et ça, avec ils écrivent à deux.
Et puis Galifianakis va jouer dedans.
Joue et Louis C.K. produit.
Est-ce que c'est à l'antenne maintenant?
Non. Peut-être pour la rentrée, qui sait?
Est-ce que c'est à l'antenne maintenant?
Non. Tu vas continuer jusqu'en septembre.
Et jusqu'à ce que ce soit à l'antenne. T'es sérieux?
Ouais, non, c'est vrai. Et c'est pas le seul projet qu'il a, parce qu'il a... Enfin, il en a tout un tas qui vont arriver, vu que son deal le permet, donc pourquoi se priver? Et FX et FXX, pour l'instant, ont une dizaine de projets comme ça qui arrivent, rien que d'humour, donc, enfin, de comédie. C'est quand même assez, assez dingue.
Et quand tu vois les chaînes commencent à se battre, TBS, donc là où est diffusé Conan, leur slogan, c'est Very Funny. FXX, justement, comment le dire, on finit par scinder les chaînes afin de pouvoir se spécialiser.
Mais ça, je vais en reparler un peu après, parce que c'est bizarre.
Et quand tu vois le nombre de comics, EFC commence à faire des trucs aussi, t'as tout le Comedy Central, ça regarde très 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 bien. Autant il y a un âge d'or du stand-up, on va dire, dans les années 70, 80, jusqu'à 90, tout le monde avait des deals. C'est pour ça qu'il y a eu une espèce de période sèche, fin des années 90, début des années 2000. Je suis allé en vacances au Canada, j'ai commencé à dire 90 au lieu de 90. J'ai vu que tu me regardais avec une drôle de face.
Mais du dégoût, hein, du dégoût.
C'est ça. Je me demandais pourquoi tu étais en train d'essayer de m'arracher une côte avec une pince. Et là, j'ai l'impression que ça revient. Il y a plein de comiques qui réussissent sur scène, pas assez pour être connus du grand public, et qui se font connaître via des séries. Jim Jefferies, moi, étant le gars qui me fait le plus rire au monde, il y a une série...
Legit, qui revient pour une saison 2.
Et c'est génialissime.
Sur FX aussi.
Il faut absolument aller voir son stand-up à lui aussi. Mais la plupart des gens l'ont connu via sa série, et c'est popularisé. Pas vrai. Je veux dire, il a été surpopularisé via la série, et t'en as une série comme ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Mais de toute façon, moi, j'écoute plus ce que tu dis depuis que tu m'as dit que Louis C.K. allait écrire avec Zach Galifianakis.
Ben écoute, je parlais pour ceux qui nous écoutent.
Mais ça va être... Si c'est mauvais, ça va être le jour le plus triste de ma vie, je crois.
Ouais, mais il y a quand même très très peu de chance. Et ils ont... De toute façon, ils ont plein d'autres projets, donc à mon avis, même si celui-là est nul, on peut toujours se rattraper sur un autre.
Parlant de projets bizarres, tu sais, c'est que Jerry Seinfeld et Larry David en ont un étrange à deux?
Broadway.
Ils veulent faire une comédie musicale, apparemment.
Ouais, moi j'aimerais bien qu'ils refassent des curbs.
À la place.
Ouais, comment ça s'appelle en français? Larry et son nombril.
Larry et son nombril, parce qu'au Québec, ça s'appelle... Je pense que ça s'appelle Cache ta joie.
C'est plus logique. Mais Larry et son nombril, c'est pas mauvais non plus, je trouve.
Par rapport à l'esprit de la série, tout à fait. Tu sais que je suis... Je suis super fan de Seinfeld, de Larry David, du personnage que tu vois. J'ai jamais vraiment accroché à Curb Your Enthusiasm. Je comprends pas.
Je suis archi fan de cette série. Il y a des épisodes qui sont pour moi cultes.
Et j'ai l'impression d'avoir tort. Et déjà, la façon, je sais pas si on a déjà parlé ici, mais la façon dont ils les font, déjà, est brillantissime. C'est une des rares séries qui est pas 100% scriptée. Ils ont les thèmes, ils ont les axes, ils prennent des gens doués et puis ils les envoient devant la caméra et puis ils font leur truc jusqu'à ce qu'ils aient ce qu'ils veulent, ou si ça fait quelques fois que ça foire, ben ils se reculent, ils cherchent un autre axe et puis ils relancent. Et donc le mood qui est développé est difficile à imiter parce qu'il est né d'une... C'est pas 12 scénaristes qui sortent de la même fucking école que les autres qu'ils ont écrits.
Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi le fait qu'il peut faire ce qu'il veut sur HBO. Le mec, là pour l'instant, ça fait...
C'est pas là déjà 8?
Ouais, 7? Mais ça fait. Ouais, la dernière saison, il était à New York. Et la raison pour laquelle il part à New York est juste parfaite. Mais il y a. Je crois que ça fait 2-3 ans maintenant qu'il n'y a plus de nouveaux épisodes.
J'ai essayé, mais en gros, je sais que j'ai tort. Hein, mais...
En gros, il peut revenir quand il veut. Il vient et il aura sa place sur la grille.
Larry David a fait 7 ans sur les 9 de Seinfeld. Et là, je me souviens plus exactement c'est combien, mais disons c'est au moins 7, j'imagine, Curb Your Enthusiasm.
Je pense que 7-8. Ouais.
Oui, et donc, il y a 15 saisons. Les deux premières de Seinfeld, voire 3 premières de Seinfeld, ont moins bien marché. Mais il y a 10-12 saisons de deux séries différentes qui sont des succès marquants pour l'histoire de la comédie.
Et il est revenu il n'y a pas longtemps sur HBO, il y a... Je ne sais plus quand, mais c'était pour Clear History, un film... Avec le mec de Mad Men, John Hamm et tout ça. C'était un téléfilm qui était très très drôle. Je pense qu'on en avait parlé.
Et il y a aussi, tant qu'à faire des trucs comme ça, il y a un documentaire qui est sorti où on le voit beaucoup, Larry David. Ça dit, ça s'appelle, je crois, 50 Years Behind the Brick Wall. Behind the Brick Wall.
Derrière le mur de briques.
50 Years, l'histoire du premier comedy club qui a été créé, qui s'appelait The Improvisation au complet à New York, dont le but à la base était de faire un endroit où ceux qui jouent partout dans la ville peuvent aller manger, boire un verre et prendre le mic si ça les chante après. C'est pour ça que c'était ouvert tard et que t'avais des performances aussi super tard. Et puis il raconte un peu l'histoire, comment ça fonctionnait, les comics, l'arrivée du truc à Los Angeles et tout. Évidemment, il passe à peu près en 2 secondes la grosse grève qu'il y a eu des humoristes qui à la base n'étaient pas payés et ça s'est mal terminé. C'est pas à The Improv, mais c'est au club concurrent où il y en a un qui a fini par se suicider parce qu'à la fin de la grève, la propriétaire du club n'a pas voulu reprendre certains comics et s'est suicidé en disant en gros la comédie m'a tué ou un truc comme ça. Donc ça, il passe un peu vite sur ce bout là, mais pour le reste c'est... Et le gars, il est fascinant. Si vous voulez fouiller sur lui, il s'appelle Bud Friedman. Le gars encore aujourd'hui se promène avec un monocle qui est attaché à son cou et il est allé entre autres chez Jimmy Fallon, tu crois, et oui, pour faire la promo. Et donc le club a 50 ans, fais le calcul, le gars a plus que 56 et je sais pas combien il a investi de son argent en chirurgie esthétique, mais le dude a l'air de 55 maximum, quoi. Alors qu'il y a minimum 70-75, quoi.
Ça a été diffusé il y a pas longtemps, hein.
C'était
en décembre.
Je crois que j'étais déjà au Canada et je suis parti à mi-décembre. Donc,
mais on vous filera pas les liens pour le télécharger, ça vous débrouillez, mais la bonne annonce est...
Et le nom exact.
Le nom exact, oui. Je vais vite tracer parce que.
Ouais. T'as encore pas mal de stock?
Ouais.
Ok.
Je vais continuer juste avec FX. Ils ont commandé une série à Charlie Kaufman, qui est le scénariste de Spike Jonze, qui a été le scénariste pendant longtemps. Eternal Sunshine, Being John Malkovich, c'est lui.
Ok.
C'est un fou furieux. Il a un projet de série qui s'appelle Here and Why avec Michael Cera, le mec de Arrested Development et tout ça.
L'ado bizarre par excellence qu'on voit dans. C'est le mec de la fille dans Juno, entre autres.
Voilà. Et John Hawkes, qui est lui un acteur un peu plus sérieux, c'est un moustachu que vous avez pu voir notamment dans Martha Marcy May Marlin, que je peux vous conseiller, avec la sœur de... C'est un drame, c'est pas une comédie, mais c'est avec la sœur Olsen, celle qui a mieux réussi, Elisabeth Olsen.
Donc Elisabeth Olsen, si vous êtes fan d'Elisabeth Olsen et de moustache, c'est pas mal le top que tu peux conseiller.
C'est un film, c'est assez incroyable.
Et par rapport à la moustache de Rolla McDan, tu la mettrais où?
Elle est beaucoup plus americana, la sienne, tu vois. Ça sent le blues dans la moustache. L'autre, ça sent le barbecue de camping, tu vois ce que je veux dire.
Alors que l'autre, ça sent la sauce barbecue.
Exactement.
C'est pas la même chose.
Donc, en gros, voilà, c'est un projet pour la chaîne, parce que j'ai rien d'autre à dire, donc autant parler de moustache.
Et autant, aussi, heureusement que tu venais de dire que t'étais un peu pressé, que t'allais le défiler. Tu dois être content de mon aparté sur la moustache.
Non, mais c'est pas de souci. C'est moins pire que quand t'as dit 90. Donc... le pitch, en gros, c'est une phrase. Hein. C'est un mec brillant qui comprend la physique nucléaire, mais qui ne comprend pas la vie. Moi, je vois déjà bien le genre.
Mais à partir du moment où tu regardes le CV du gars, parce que on essaie de t'expliquer Being John Malkovich, donc c'est l'histoire des gens qui trouvent un passage secret pour arriver dans la tête d'un gars.
John Malkovich.
Ouais. Ça fait aucun sens, et pourtant, c'est un bon film. Donc, encore une fois, des gens qui ont du talent, ils disent « Je vais faire un film sur l'histoire de ma main gauche. » Tu sais, c'est moi qui le fais.
Ouais, moi, ça me pose pas de problème.
Craignez, si c'est lui, allez le voir, quoi.
Et j'enchaîne. La Fox encore, mais là, c'est Fox, donc le network. Il y a Kevin Reilly, le patron de la Fox, qui a dit qu'il arrêtait de faire des pilotes. Donc.
Qui arrêtait de faire des merdes.
Non, ben.
Conférence de presse.
Pour l'instant, ça va.
Ben oui.
Et on a déjà expliqué, depuis qu'on a ce podcast, j'ai déjà expliqué au moins 150 façons que les Américains tentent comme ça, qu'ils essayent de révolutionner le système. Donc à la base, c'est un pilote. Et si ça marche, on paye une série.
Ouais.
Lui, il veut même plus faire ça. Même plus de. J'avais parlé du 1090 où on commande 10 épisodes et si ça marche, on en commande 90 derrière. 90.
Ça va, c'est bon.
Fou. Et j'avais parlé d'un autre truc aussi, un autre système, mais je me souviens plus. Mais lui, il veut carrément arrêter les pilotes. Donc en gros, il dit si le nom est bon et si ça marche.
Fais confiance aux gens.
On fait confiance aux gens. Il dit juste pour les comédies, il fera encore peut-être des pilotes parce qu'il dit là, il faut trouver un ton.
Fait.
Ce qui est un peu plus logique que sur un drama, mais c'est quand même assez dingue, je trouve.
Mais de toute façon, quand tu regardes le pourcentage de réussite entre les gens qui ont une bonne idée et puis le fait que ça soit bon sur scène, une fois arrivé à l'antenne, et qu'une fois que ça soit bon, que ça marche, ou qu'ils soient assez patients pour attendre que ça marche, et ils ont tout intérêt à essayer de trouver de nouvelles façons.
Et là, il a commencé son speech en disant « Rest in peace, pilot season ». 1986-2013.
Tu vois qu'ils ont des gens aussi pour écrire leur discours.
Ouais, ça, hein. C'est clair.
S'il veut, peut-être qu'il est capable de le faire lui-même, mais je veux dire, s'il veut, il y a des ressources en interne. Mais de toute façon, c'est une bonne nouvelle. Tout ce qui permet d'avoir plus de nouveautés et d'essayer plus de choses créatives et différentes, c'est toujours une bonne nouvelle. Ouais. Tu sais que la plupart vont mourir, mais au moins... donner une chance à tout le monde de faire des trucs bizarres.
Mais surtout, son point de vue, c'est qu'il dit un pilote, de toute façon, c'est quand même très peu représentatif d'une série et ça coûte de l'argent. Enfin, un pilote, ça coûte le tournage, tu payes tout le monde. Donc,
ouais, c'est ça. Tant qu'à faire, aussi bien avoir un truc.
Autant avoir une saison complète plutôt que des centaines de pilotes que personne ne verra jamais et qui ont coûté quand même un paquet d'argent.
Ouais, ça t'a pris 100 pilotes, ça t'a fait l'équivalent de 5 saisons complètes de série. Et avec peut-être une exception sur les pilotes, et moi, ça demeure le meilleur truc que j'ai vu, certainement en tant que pilote. Pour établir en 22 minutes 6 personnages, les interactions qu'ils vont avoir en eux, et c'est ça, et les arcs pour les histoires. Le pilote de Friends, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, c'est un pilote, donc à la base, il faut savoir ça. Et c'est incroyable. C'était sûr qu'elle est un pilote comme ça, c'est sûr qu'elle n'allait pas dire non.
Dans How I Met Your Mother aussi.
Ben, blague à part, oui.
Ouais, enfin, sauf que on changeait du tout.
Oui, mais le pilote, si tu regardes juste pilote.
Oui, mais Friends, pendant 10 ans, ils sont restés, les personnages sont restés tels quels qu'ils avaient été définis dans le premier épisode.
Mais moi, j'ai jamais vu un meilleur pilote comique, en tout cas, que Friends. Si vous n'êtes pas d'accord, il est tort, hein, mais il n'y a pas. Non, c'est pas. C'est ma nouvelle phrase. Il est tort, il n'y a pas de problème. Non, suggestion, parce que évidemment, je suis lourd. D'avoir tout vu, mais disons dans ce que le peu de choses que j'ai vu, le spectre de peu de choses que j'ai vu. Ah non, il y avait comment ça s'appelle le truc, il y a pas d'âge.
Van dans un.
C'est ça, exact. Non, le pilote de il y a pas d'âge a exactement établi le ton de l'émission, parce que moi quand je l'ai vu le pilote, j'ai fait ah tiens, je vais pas regarder, et depuis j'ai pas regardé. Donc il y avait quelque chose de
non. Ça existe encore, ça a été annulé je crois, non? Tu sais quoi, commence l'année sur le bon pied.
Ça allait bien là.
Je tourne autour, mais je vais en parler, hein, parce qu'il y a quand même un peu de SNL dans le tas.
Bon, fais-toi plaisir, regarde, c'est la nouvelle année pour tout le monde, fais-toi plaisir.
En vitesse, Drake, ce samedi.
Le rappeur canadien.
Ouais, qui fera host et guest musical. Le 25, Jonah Hill.
Oui.
Avec un groupe qui s'appelle Bastille, mais comme je suis nul en musique, je ne sais absolument pas c'est qui. Et pour le 1er février, qui est le week-end du Super Bowl, il parle, mais c'est pas encore confirmé, de Melissa McCarthy. Ce serait sa troisième fois. Ce serait la troisième fois de Jonah Hill aussi. Et la première pour Drake, je pense.
C'est assez marrant, je trouve, ce qu'elle a fait au Golden Globe, où elle était avec Jimmy Fallon. Et Jimmy dit... Jimmy, où je l'appelle Jimmy?
Jimmy, ouais, ben,
Oh mon dieu, là. Oh, c'est gênant. Il a dit, ah, Melissa s'est cognée backstage à l'heure et je sais pas ce qui se passe. Elle maintenant, elle se prend pour Matt Damon. Et selon les médecins, il faut absolument pas la réveiller parce que ça peut être dangereux. Et t'as juste elle qui parle comme Matt Damon. Ça fait aucun sens comme Matt Damon.
J'ai pas vu la cérémonie, j'ai juste vu le
speech d'intro.
Ouais, le speech d'intro.
Et à un moment donné, il dit, j'ai hâte de rentrer avec ma beautiful wife. Et il la pointe et dit deux, trois trucs. C'est con l'idée, mais les deux personnages, je trouve, sont tellement sympathiques que tu. Genre, mettons, si tu détestes Melissa McCarthy et tu vois ça, tu fais. Bouh!
Moi, je la trouve incroyable. Et au SNL, elle se donne à chaque fois comme une dingue. Mais vraiment, il y avait un bête sketch la dernière fois qu'elle est venue, ou la première, je ne sais plus, où c'était un panel qui devait goûter des sauces, des salad dressing, donc comment on appelle ça, des vinaigrettes, quoi. Et elle termine le sketch en se foutant la bouteille de vinaigrette sur la gueule et en continuant de gueuler comme une dingue.
Ouais, ouais.
Et on lui met tout le temps les pires perruques. Franchement,
Commitment, ouais.
Elle sort de là, à mon avis, elle doit être crevée, quoi.
J'ai entendu un acteur qui a joué avec elle dans The Heat. Donc, en français, j'ai oublié comment ça s'appelle.
Mais t'avais déjà raconté le fait que...
Elle doit lui lancer un annuaire téléphonique, une boîte téléphonique, puis elle dit « Ah, je vais peut-être y aller ». Il fait « Non, non, vas-y à fond, t'es sûr, ouais, t'es sûr ». Jette le bottin tellement fort que le gars dit « J'étais sûr que j'avais le nez pété ». Elle se sent mal, elle vient pour foncer vers moi pour me porter secours, elle tombe. Toute l'équipe, il y a 10 personnes qui se projettent pour nous aider. Enfin bref, pour l'aider elle. Et ça, tu te rends compte que t'es vraiment le second rôle, quoi.
Et en français, c'est les flingueuses, je crois.
Les fois, c'est ça. Et d'ailleurs, la scène dans le film, c'est marrant parce qu'elle coupe super, il reçoit, et c'est celle-là qu'ils ont gardé, mais elle coupe, genre, il reçoit le bottin, mais comme après, il y a eu ce brouhaha-là, tu vois que la scène coupe super vite au montage, ok.
Et pour terminer avec le SNL, ils ont engagé enfin une blague.
Ce qui est... Une blanche ou une blanche qui se peint en noir, non, parce que non, ça peut non. être bon aussi, je pense.
Non, non.
Ça, ça passe bien.
Ça, ils ont jamais fait quand même, je pense.
Blackface?
Ils ont fait du drag à fond, mais pas blackface, je pense pas.
Mais blackface aux États-Unis, maintenant, c'est terminé, de toute façon. Si tu fais ça, peu importe qui fait ça, quoi et comment, c'est...
Ce qui est un peu logique. Ils ont engagé une fille qui s'appelle Sachir Zamata. Que je connaissais pas vraiment, j'ai été voir ce qu'elle a fait.
Est-ce que eux la connaissaient?
Ouais.
Je fais vous.
Elle était. En fait, il y avait. Ils ont fait une grosse présélection. Ils ont pris une dizaine de comédiennes. Mais je trouve ça bizarre, c'est qu'il fallait que ce soit pour répondre aux critiques et une fille et une black.
Donc ils ont fait un casting fille black.
C'est vraiment. D'un côté, c'est bien de l'avoir fait, d'avoir engagé quelqu'un, tu vois.
Et de l'autre côté, t'as l'impression que c'est quasiment pire.
Mais oui, c'est ça que... Et ils ont engagé aussi deux scénaristes black, des filles aussi. Une qui s'appelle Lakendra Tux et Leslie Jones. Mais c'est un peu bizarre de faire que ça. Et alors, ce qu'on leur reproche, c'est la diversité. Ils peuvent très bien prendre une hispanique ou j'en sais rien, moi. Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Mais en même temps, est-ce qu'on va vraiment donner des conseils à Lorne Michaels?
Non, moi je m'en fous.
Je pense qu'il est juste bien son truc.
Et ils ont fait un dernier truc, après j'arrête avec ça, c'est que le dernier épisode de la saison, donc en 2013, c'était Fallon et Timberlake.
Ouais.
Pétage de score, encore une fois. Ils se sont donnés à fond. Et ils ont fait une chanson qui était super bien foutue, on dirait visuellement un clip des Pussycat Dolls, qui s'appelle Do It on My Twin Bed. En gros, le pitch, c'est que. Ben, les filles rentrent chez leurs parents pour Noël et qu'elles, cette année elles ont pris leur mec et elles disent on va devoir baiser mais sur mon lit de quand j'étais gosse quoi. La chanson est super bien foutue et ça a été un carton et sur YouTube et sur NBC etc. Du coup ils l'ont vendu en single donc sans les Lonely Island ils sont en train de se faire un petit
ouais.
Et ce qui est pas con du tout.
Et Dr. Jimmy Fallon qui quand il a commencé à recevoir les royalties et Justin Timberlake quand il a commencé à recevoir les royalties ils ont dit aux gens qui arrivaient avec le camion et des pelles mettez-le vous voyez la première montagne d'argent. Derrière, il y a une autre montagne d'argent.
Tu crois qu'il doit être si bien payé?
Oui. Fallon?
Oui.
Fallon, c'est plusieurs millions par année, c'est sûr. Des gens commençant.
Ben, Jay Leno, c'est 15 par an.
Un petit peu plus, je crois, parce que Letterman, je crois que c'est 25 et Leno, c'est genre 20 de mémoire. Mais je sais que Letterman est payé plus que...
15 ou 10, c'est Stewart.
OK, ça. Et je crois que c'est 20-22 pour Leno de mémoire et genre 25 pour Letterman. Et eux qui sont derrière... Ouais, mais surtout, il va y avoir une petite augmentation de salaire dans un mois, c'est sûr. Et puis, avec tous les trucs, les scores qu'il fait, j'imagine qu'il n'est pas con, les scores qu'il fait sur YouTube, j'imagine qu'il en touche une partie. Parce que, tu sais,
je sais pas.
C'est, même si c'est un centime par 1000 clics, quand tu fais régulièrement des vidéos à plusieurs millions, ça finit par en faire des 10 000 qui s'accumulent sur ton petit compte en banque. Quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais... En même temps, il le mérite, je trouve. Et là, il y a...
C'est méritocratie à fond, lui, pour le coup.
Il y a quelques pubs pour promouvoir son... Ça s'appellera le Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
OK.
Il a légèrement changé. Normalement, c'est Tonight Show With. Avec...
Tonight Show With Jay Leno.
Et si c'est Starring, vraiment, genre, c'est lui qui prend la place pour le moment, mais à un moment donné, ce sera quelqu'un d'autre, quoi. C'est oui, vraiment c'est ça que ça veut dire.
En français, on peut avoir l'impression que Starring, c'est se la péter, parce que ça, je suis une star, ça veut juste dire... En gros, c'est ça, piloter pour le moment, un peu de choses près, quoi. Il l'avait dit dans une interview, j'avais lu ça, il veut que la vedette, ce soit l'émission, et il y a beaucoup, beaucoup de respect pour la franchise, et il veut pas donner l'impression qu'il se met sur un pied d'égalité avec Johnny Carson et Jay Leno. C'était ça, sa mentalité.
Et ici, il a fait une nouvelle pub qui s'appelle Stayin' Awake, où il parodie Travolta. Et en gros, la vanne, c'est que le Tonight Show revient à New York. Donc,
okay.
C'est quand même un peu le gros changement. Et aussi, Seth Meyers, les promos ont commencé, Twitter a commencé, ils ont un Instagram, ils ont un Tumblr, ils ont tout, évidemment. Et ça a l'air d'être quand même vachement, vachement bien. Ce sera pas vraiment à la Fallon avec des musiciens, des trucs dans le genre. C'est plus...
Plus proche de Ferguson, comme on dit déjà.
Plus mais lui, il est plus straight man par rapport à des mecs un peu drôles. Enfin, tu vois.
Okay.
Et alors, il aimerait bien. Ils ont déjà engagé quelques scénaristes, dont des anciens qui bossent avec lui, Weekend Update,
okay.
Qui viendront eux-mêmes faire des personnages récurrents. Peut-être pas même des personnages, mais peut-être faire un bout de stand-up ou
okay.
Son équipe.
Mais lui, très straight man, ok.
Ouais,
parce
ouais,
qu'on
ouais,
va dire un peu plus comme Ferguson, mais c'est peut-être dans l'éclatement de la logique, donc c'est pas lui, il va pas être foufou comme Ferguson. Donc.
Non, ouais, voilà. Je pense pas, et je pense pas encore beaucoup moins du coup que Fallon. On va pas le voir faire des machins avec Timberlake et danser et tout ça. Lui, c'est pas vraiment ça. C'est plus mettre en avant des gens drôles et lui réagir un peu comme Monsieur Tout le Monde, quoi.
Parfait.
Et un autre truc que vous pouvez checker d'ici là, il y a le best-of de Late Night with Jimmy Fallon. Ils ont fait ça, je ne sais plus trop quand, début de l'année, je pense. Ça dure 1h30. C'est juste un gros best-of des mises
émissions.
C'est
une émission, ok.
Ouais. Il y a tout ce qu'ils ont fait, les sketchs, des invités. Tu vois autant Timberlake qui rappe que Tom Cruise qui se fout des œufs sur la gueule ou je sais pas, enfin toutes les conneries qu'ils ont fait, les parodies.
Pas vu, ça m'intéresse à fond de regarder. Et
c'est super bien monté. Le seul truc qui est un peu bizarre, c'est qu'il lance évidemment chaque section qui regroupe certains types de trucs qu'ils ont fait. C'est la phrase la plus vague du monde. Et à chaque lancement, il tombe. Donc il est debout ou il est assis sur un tabouret et il tombe. Alors, première fois, tu te dis c'est nul. Deuxième fois, tu te dis c'est nul. 3, 4, 5, tu te dis oh, en fait, il continue, ça devient drôle. Mais c'est vraiment, à chaque fois, on en parle, mais
ouais.
C'est nul, ça devient drôle, c'est nul, c'est génial.
C'est un peu drôle, à chier, très drôle. C'est ce que ça va durer. Ouais. C'est bon, reviens-en.
Il le fait jusqu'au bout.
Oh my god. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Si tu fais ça et que tu t'arrêtes dans le milieu.
Non, c'est ça. Il fallait le faire.
Et c'est, sur scène, c'est le pire, ça. Maintenant, si tu décides que tu vas faire un silence gênant qui va être marrant, il faut que tu aies une paire de coronets pour aller jusqu'au bout. Bah, si tu t'arrêtes dans le milieu, c'est juste un échec plus long qu'un échec court. Hein.
Donc, faut... Mais pour terminer sur eux deux, ils sont à fond sur le devant de la scène parce que Fallon est à la couverture de Vanity Fair. Mm-hmm. La version américaine évidemment Seth Meyers c'était en couverture de Time Magazine.
Ok.
Donc tu dis ça va pour eux quoi.
C'est pas plus mal, c'est pas.
Et je pense que justement NBC mise à crever là-dessus parce qu'ils ont rien d'autre.
Ouais, c'est, finalement. Et c'est ça. Mais autant c'est par envie que par choix que par dépit genre.
Ils ont rien d'autre.
Bah, ils vont les JO, ils vont faire des bons scores probablement. Donc aux États-Unis ils font pas tant que ça des bons scores en général.
Chaque année tout le monde se dit pourquoi NBC continue, enfin chaque année quand chaque fois qu'il y a les JO, pourquoi ils font
mais ils se disent à chaque année et
parce qu'ils ont des installations de dingue
à fond, mais c'est des budgets de malade aussi et voilà excuse-moi, j'ai de dire à chaque année surtout l'année où il n'y a pas de JO, genre pourquoi est-ce que
j'ai dit chaque année il y a des JO, je me suis repris.
Oui, non, t'as raison. Moi, ça m'intéresse à fond, mais bon, le curling, c'est pas donné à tout le monde.
Vas-y, dis-le. Ayez tort, mais moi, le
curling. C'est ça. Non, mais vous pouvez ne pas aimer le curling. Honnêtement, libre à vous d'avoir tort, mais quand vous allez vous rendre compte que c'est exactement comme la pétanque, mais sur glace, avec des gens qui glissent et qui sont cambrés.
Ça te fait du mal, le Canada.
Le curling.
Tu reviens changer.
Le curling féminin, mon ami. T'as jamais vu une aussi belle posture, une aussi belle cambrure
et jamais vu de tout court. Non, si, j'ai vu, c'est peut-être la première fois que j'ai regardé autant de curling, c'est dans les Simpsons, ils ont fait un épisode où Homer et Marge rejoignent une équipe de curling. Tu l'as vu celui-là?
Mais il y a aussi quand Stephen Colbert interview l'équipe de curling au JO à Vancouver, il y a 4 ans.
Il a sponsorisé c'est pas de curling qu'il a sponsorisé, c'est le patinage en vitesse, là, comment on s'appelle ça?
Le short track. Donc, patinage, vitesse, courte piste et longue piste. Non, t'inquiète, je connais, mais.
C'est ça qui m'attriste.
Mais tu sais, en Belgique, ils vont donc le. Ben, en fait, au JO, ils vont avoir du hockey sur glace. Et c'est la RTBF qui a les droits en Belgique. Et David qui va co-commenter les matchs de hockey sur glace pour la télévision nationale belge, mon bon Anthony!
Ben, ça intéresse toi, sinon ça n'a strictement rien à voir comme anecdote.
C'est un gars qui s'appelle Alain Dupont. Vous le connaissez pas, mais. Ça... Oui, mon ami.
Avec qui?
Benjamin de Sonnec. Donc voilà. En fait, en théorie, mais conférence de presse bientôt. J'espère que je n'aurai pas de mauvaise surprise. Et finalement, dernière minute, on a choisi Rock Voisine.
C'est vrai que.
Sur France Télévisions, c'était Rock Voisine qui le faisait. Hein. C'est pas une blague? Je te jure, man. Tu ne crois pas?
Ben si, je te crois, mais c'est drôle. Déjà, Rock Voisine. Fin.
Déjà, by the way, dans les trucs que tu ne croyais pas, c'est confirmé. Hein, Conan O'Brien a écrit l'épisode du monorail. Mi parenthèse, aux États-Unis, j'étais donc en Amérique du Nord dans le temps de Noël. Et donc, j'ai pu checker sur les internets américains. Et là, l'information était parce que.
Ouais, je reste perplexe. Je peux terminer en vitesse sur les Late Night. On avait parlé il y a quelques mois, quelques numéros, qu'il y avait eu un beat dans le show de Jimmy Kimmel. Où un petit enfant avait dit qu'il fallait tuer tous les Chinois.
Oui, ça s'est mal passé pour Jimmy Kimmel après. En fait, juste remets en contexte, ouais, peut-être.
Vas-y. Moi, ou je pensais que t'allais le faire.
Toi d'abord.
En gros, ils ont dû s'excuser, quoi. Ils ont dû, ABC et Kimmel ont dû s'excuser.
Le beat, en gros, c'était les États-Unis ont plein de dettes envers la Chine. Quelle est la solution pour régler notre dette? Et t'as un enfant qui fait Kill all the Chinese people.
C'était un truc qui n'était pas scripté, qui n'était pas prévu, qui a été diffusé, qui est maintenant est enlevé de toutes les rediffs, etc. Il ouais. Y avait une association de...
T'as dit une association de Chinois, non? Oh, Anthony.
Le pire, c'est que c'est vrai. Il y a une association qui s'est plainte. J'en avais parlé déjà aussi, je pense, avant la trêve de Noël.
Pourquoi c'est si drôle, une association de Chinois?
Je sais pas, mais c'est parce que j'allais dire Shintok, en fait.
Oh non.
Monsieur Mongol, on se calme. Dans les priorités, ok.
Oui, mais moi, je l'ai fait devant des gens atteints de handicap. Est-ce que je cherche, il n'y a pas de Chinois dans mon appartement?
C'est un ninja caché. Un gros stéréotype de merde.
Oh.
Soit. Ils ont profité du coup de... Il y a une loi, je pense que c'est une loi. Enfin, en tout cas, il y a un site où tu peux proposer des pétitions.
Oui, ça arrive à quoi? C'est 50 ou 100 000?
100 000.
Ça, le président est obligé de réagir ou la Maison-Blanche est obligée de réagir.
Voilà. Ils ont obtenu évidemment les 100 000.
Bah oui.
Et,
pourquoi évidemment, Anthony?
Parce que quand un regroupement de cons, qu'ils soient chinois ou d'autres, t'arrives souvent... Enfin bon, voilà quoi. Bah c'est vrai.
Oui.
Et la Maison Blanche a dit que ce qu'on fasse, enfin, il y a liberté d'expression, et puis ils se sont excusés. Alors ils ont mis le lien. Voilà les excuses de ABC, voilà les excuses de Kimmel, débrouillez-vous quoi.
Ce serait la Maison Blanche qui répond en disant écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ceci était la réponse officielle de la Maison Blanche. Ça fait plutôt la Maison Belle, je trouve.
Un gif avec Obama qui fait hein? Qui lève les bras, tu vois. Hein?
Qui a des réponses officielles en GIF. Tu sais, maintenant, on pose une question à tous les dirigeants de la conférence. Il y a eu la conférence de presse des vœux de rentrée, je sais pas quoi, de Hollande. Ça aurait, en plus, lui, pour le coup, ça aurait été mieux, ça aurait été juste des GIFs, quoi. Juste une douzaine de GIFs et en fonction, t'envoies ça à l'écran.
Ça aurait été mieux parce qu'au moins, il n'y aurait pas eu les petits rototo qui est là quand il parle.
Sérieux?
Qui sont dégoûtants.
J'ai jamais.
Il parle et puis. Et tu vois qu'il ravale quelque chose, enfin, tu vois, ça me dégoûte.
Ah.
Mais là, on change complètement de sujet. Mais par contre, on peut parler un peu de la France.
On va rapper ça up rapidement, par contre, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on parle.
Ok, je veux juste dire que Conas, qui était sur au Bifort du Grand Journal.
Joséphine.
Non.
Non. Joséphine Dray a fait le truc, non, c'est Joséphine Oz qui a fait le truc. C'est.
Ouais, mais elle est dans Click.
Ouais. C'est... Conas, c'est qui?
Connasse, c'est Camille Cotin.
Qui t'as dit Cotin?
Cotin. Et elle passe dans le Grand Journal et pendant ce temps, repasse dans le Bifort. Il y a un petit changement, une petite promotion.
Ben, bien joué de sa part. C'est drôle. J'ai entendu plein. Moi, j'ai pas regardé, mais ça fait partie des choses. Tu sais, le fait, ça fait 10 personnes qui disent que c'est bien et t'as pas encore regardé. Ça, ben,
tout est dispo sur le site de Canal. Ouais, non, moi je trouve ça drôle. Après, ça dépend encore une fois de la situation, mais ça, c'est indépendant de elle et de son talent.
Je crois que je t'ai déjà posé exactement cette question.
C'est possible, mais.
Tant mieux ton opinion. Toi, t'es cohérent.
Mais voilà. Et je voulais juste dire un petit mot sur le débarquement qui a été diffusé. C'était pas non plus exceptionnel, quoi.
Mais c'était pas raté?
C'était pas raté. Il y avait le dernier sketch, celui que tout le monde a vu, je pense, c'est Football, la comédie musicale. Je sais pas si tu l'as vu.
Non,
oui. Ils reprennent tous des extraits de comédie musicale et ils chantent sur le foot, en gros.
Ok.
C'était super bien foutu, super bien produit. Pour le reste, c'est des sketchs qui sont. T'as l'impression, tu vois, par exemple, dans. Je reviens sur le SNL, évidemment, c'est la même comparaison, mais t'as des bons sketchs.
Oui.
Et t'as des sketchs qui sont vraiment nuls, mais tu t'en fous parce que la semaine d'après, il y a un autre numéro.
En fait, et ça, c'est un truc en télé ici, on oublie souvent de calculer, je trouve. C'est comme pour les late shows. On dit « Ah, c'est pas facile. » Et donc, on en fait un tous les mois. Mais le point des late shows, c'est aussi le mood où t'as pas besoin d'essayer de faire un gros prime time si t'en as tout le temps. Et t'as raison, là, je suis sûr que le débarquement, la même chose, si t'en avais à toutes les semaines, les gens ne scruteraient pas à la loupe. Ils feraient « Ah, cette semaine, c'était bien. Cette semaine, c'est moins bien. » Et ils ont le droit que ça soit pas génial chaque sketch, chaque fois. Puis le truc, toi, t'as peut-être faut rire d'autres. Mais au total, après, ça s'équivaut. Là. Moi, tu sais que j'étais pas vraiment... fan de ce que j'avais vu,
mais là ici c'était encore
mais
beaucoup
mieux
de gens, beaucoup de talent, mais gâché je trouve, parce que
c'était qui les gens, parce que la dernière fois moi, j'avais
il y en a
vu...
tellement il y a ouais. tout le monde et, mais oui. C'est le problème, c'est que ça devient presque des apparitions, tu vois, juste pour dire,
c'est quasiment comme les enfoirés de l'humour, quoi.
Ouais, voilà. Et par exemple, ils avaient Ben Stiller, ils ont fait une pub, et Ben Stiller il dit, moi pour faire ma vaisselle, c'était une fausse pub, et il dit j'utilise Jean Dujardin, et c'est Jean Dujardin qui fait foirer l'américain. C'est drôle, tu vois, mais tu dis bon vous avez Ben Stiller, faites autre chose, quoi.
Mais, ou à l'inverse, on en a déjà parlé, ça aussi, c'est huge d'avoir un featuring et de lui faire faire peu de choses. C'est avec toi qu'on en parlait ou c'était peut-être pendant mes vacances?
Ton autre podcast.
ou avec mes vrais amis. Le...
Foiré.
Je ne sais pas si c'était avec toi ou avec le produit blanc ou avec le vrai produit. Mais là... Non, c'était George Clooney quand il était dans South Park. Il a appelé les gars de South Park pour dire qu'il était super fan et ils l'ont fait venir. Et à un moment donné, il y a un chien dans l'épisode qui fait ouf. Et au générique, c'est chien, deux points, George Clooney.
Oui, mais là, ça reste très hollywoodien. Ici en France, c'est exceptionnel la venue de Ben Stiller.
Je sais pas, raison de plus. Moi, je trouve que le fait de sous-jouer, downplay, au lieu de faire Ben Stiller là, Ben Stiller là, waouh!
Non, pas, peut-être pas à ce point-là, mais alors ne donnez pas trois sketchs à Karine Viard.
Je n'ai plus de questions, entraîneur. Témoin est à vous.
Moi, je peux m'arrêter là.
Ouais, c'est bon.
Ouais.
Ben écoute, bien content de t'avoir retrouvé.
Je crois que t'allais dire bien content que tu t'es enfin.
Tu donnes encore l'adresse du Tumblr, s'il te plaît.
C'est cnwpodcast.tumblr.com.
Et les trucs sont déjà dessus ou ils arrivent rapidement?
Oh, comptez mi-2014.
Sinon, il y a du rattrapage à faire les 15 épisodes avant. Évidemment, vous pouvez vous abonner sur iTunes, sinon sur Podomatic ou sur Facebook ou Twitter, c'est encore le plus simple. Facebook, c'est plus compliqué parce qu'on en a pas.
On en a pas, c'est ce que je suis en train de me dire.
Quoi? Mais Twitter, c'est @cnwpodcast. Merci beaucoup. Merci à ceux aussi qui l'ont partagé. Je dis, on fait ça, nous, vraiment parce que ça nous faisait rire de geeker à deux et parce que notre entourage en avait marre. Et de voir qu'il y a au moins quelques centaines, voire quelques milliers d'autres personnes qui sont dans le même cas, c'est cool. Genre, loser isolé de partout dans le monde, unissons-nous. Et puis, j'aurais pas dû dire ça. Puis, ben, à la semaine prochaine.
Ciao.
Salut, man.